بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chef en islam, toute une louange revient à Allah Rabbul Izzah, qui, dans sa clémence, nous a choisis pour écouter quelques paroles concernant son dîn. Et c'est là un tawfiq min Allah, une acceptation de la part d'Allah Rabbul Izzah, qui nous donne la possibilité de nous enrichir. De nous enrichir de quelle façon? Bien, sur le plan spirituel. Il y a des personnes à qui Allah ouvre les portes des biens de ce monde. Ils s'enrichissent, mais avec des biens matériels. Mais quand Allah ouvre les portes du dunya à une personne, cela ne veut nullement dire qu'Allah aime cette personne. Hadith très connu de lequel le prophète rappelle que si ce dunya avait ne serait-ce que la valeur de l'aile d'une mouche ou d'un moustique pour Allah Rabbul Izzah, ben Allah n'aurait pas donné ne serait-ce qu'une gorgée d'eau aux personnes qui restent de sa désobéissance. Ça nous fait réaliser, prendre conscience, prendre un peu de recul pour comprendre la réalité de ce monde. Dunya pour lequel on va équilibrer. Dunya pour lequel, Allah musta'an, on se bat. Dunya pour lequel on se sépare. Dunya pour lequel les frères et sœurs se déchirent à cause de problèmes d'héritage. Dunya qui cause souvent des fractures au sein de la famille, au sein de la société. Dunya parfois qui est à l'origine de séparation au sein du couple. Les anecdotes, c'est vraiment les choses les plus parlantes. Il y a quelque temps, un frère m'appelle tard le soir, mais je ne réponds jamais, mais là j'ai reconnu le numéro et c'est pas quelqu'un qui appelle souvent. Il me dit que j'ai un gros problème avec mon épouse, elle n'arrête pas de se comparer à ses belles-sœurs, qui elles, elles ont entre guillemets la chance, selon elles, hein, d'avoir des maris qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, très clairement, il mène la belle vie. Alors que moi, enfin, lui il dit que mes revenus sont modestes et c'est comme ci, comme ça, et elle me reproche. Déjà, elle dit, c'est pas de ma faute. Si je gagne, je dis un chiffre, hein, ça c'est de moi, si je gagne 1 800 € ou 1 500 € par mois, et que de l'autre côté, lui, il touche 3 000, 4 000, c'est pas ma faute. D'accord? Et ça ne veut pas dire que je suis un moins bon mari. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de mauvais. Mais voilà, la faiblesse, on va dire, c'est pas psychologique mais spirituelle de cette personne, a fait qu'elle a fait le lien, que ces gens ont plus, donc ils sont plus heureux. Ça, c'est la fausse réalité du dunya. Et c'est exactement ce que la société essaie de nous inculquer. À force de messages publicitaires, d'incitation à la consommation, à la surconsommation, et nous persuader que plus tu possèdes, plus tu existes. C'est pas je pense donc je suis, c'est je possède donc je suis. Ton canapé est encore en bon état, mais il te dit il faut acheter ce modèle-là, parce que tu appuies sur le bouton et tu es allongé. Mais tu as le modèle avec la manivelle. Non, celui-là appuie sur le bouton. Allah musta'an. Et on a l'impression que ça ira mieux, que le couple ira mieux, que la famille ira mieux. Et à cause de problèmes d'argent, des fois, un fils ne parle plus à son papa. Dernièrement, je ne peux pas vous dire le nombre d'anecdotes, d'histoires qui nous reviennent, parce que, en fait, les gens se confient, les gens ont des problèmes, les gens font face à des situations inédites, situations qui montrent clairement que la Ummah est en déclin, déclin spirituel, manque de confiance en Allah, et yaqin sur les makhlouqat et muhabba pour les biens de ce monde. Un jeune qui demande, est-ce qu'il est en droit de clasher avec son papa, parce qu'ils n'ont pas la même vision du commerce? Imagine Akhtar, papa ça va, alhamdoulilah. Imagine son papa a une entreprise et lui, ce jeune homme, il a fait des études et il a une vision un peu plus rafraîchie du commerce. Et donc pour lui, c'est plus comme ça il travaille. Il ne travaille pas comme dans l'époque avant. Il faut importer comme ça, il faut faire des marges, bref, des techniques commerciales de nouvelle génération, chose que je ne maîtrise pas. Et le papa persiste que non, c'est pas comme ça. Moi, mon papa, dans son temps, il a fait comme ça, il avait barakat, et ainsi de suite. Et arrivé à un point où le fils demande très clairement, est-ce qu'il a le droit de rompre les liens avec son papa, parce que le papa n'écoute pas.
Mais tu n'as pas oublié que quand tu avais 3 ans, là, que ce qui prenait manger mettait dans ta bouche. Qui a pris ta main, qui t'a amené à l'école en petite section, en grande section. Qui t'a fait grandir. Jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es maintenant. Et certes, les époques changent, on peut proposer d'autres idées, mais ça doit se faire toujours de le respect, de la considération et faire toujours preuve de gratitude envers Allah pour ce qu'il nous a accordé comme bienfait et reconnaissance ensuite envers ses parents qui nous ont tout donné. Il n'y a aucune raison valable pour qu'un enfant tourne le dos à ses parents. Hadama, fille, aucune raison valable. Même si Allah protège وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Verset qui parle des parents qui ne sont pas musulmans et ils demandent à leurs enfants de faire des choses haram, kufr ou autre chose. Il dit là non. Mais en dehors de ce qui est clairement interdit, l'obéissance, la bienveillance, le respect, l'amour, que ce soit des parents musulmans ou réels musulmans, ça n'a aucune différence en ce qui concerne le muhabba, le respect et le dévouement. Maintenant, les péchés, bien sûr, ça, ce message-là, c'est ce qu'on a besoin. Et c'est ce que nos jeunes sont en train de perdre. La valeur des parents, le respect du patriarche, que quand les parents disent quelque chose, ils réalisent qu'il a plus d'expérience que toi. Et que dans l'obéissance au papa, il y a la baraka. Dans l'obéissance à la maman, il y a le Jannah certainement. Qu'Allah nous permette d'ouvrir les yeux avant que nos yeux se ferment. Et de réaliser que le modèle que la société essaie de nous imposer là, c'est pas forcément le bon modèle. Il y a de bonnes choses à prendre. Il y a de bonnes choses à prendre. D'accord ? Mais dans ces bonnes choses, parfois on voit un peu d'incohérence. Moi, je connais des gens qui ont un discours très porté sur l'écologie. L'écologie. La cause animale. On n'achète plus de gobelets, on n'achète plus d'assiettes plastiques, on n'achète plus ça, plus de sachets poubelles et tout. Je sais pas, la poubelle, on met dans quoi ? D'une gonie ? Je sais pas, après un moment donné, il faut un juste milieu. Mais tout ce qui est économie, écologie, qui ne rime pas forcément avec économie, bien au contraire, tout ce qui est écologie, respect des animaux et ainsi de suite, 20 sur 20, charbage, comme il dit. Mais quand on parle de relations humaines, relations avec la famille, avec les parents, c'est autre chose, incohérence totale. Le mu'min, c'est celui qui a un comportement cohérent. Et qui donc recherche l'agrément d'Allah dans chaque instant de sa vie. Donc, pour essayer d'enlever ces fausses réalités, hein, qui ne sont pas des réalités, hein, mais ces fausses idées que nous avons absorbées donc, de notre vie, et d'intégrer maintenant les véritables valeurs, il est important d'étudier, bi'idhnillah, ce que nous avons commencé à faire depuis le mois de Rajab, c'est étudier la mort. C'est quoi la mort? Et comprendre la réalité de la mort, comment ça se passe, afin de s'y préparer au mieux. D'accord? Et ce n'est pas un programme réservé aux personnes âgées. Parce que ce ne sont pas que les personnes âgées qui meurent. On voit bien, avant Ramadan, à chaque programme, on faisait le décompte avec les SMS musulmans. Il y a eu combien de morts depuis notre dernier programme? Et où ils sont maintenant? Qu'est-ce qu'ils deviennent là-dessous, là, 6 pieds sous terre? Là, à l'instant T, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils ont cette fenêtre du paradis qui est ouverte? Est-ce qu'ils ont cette brise du Jannah qui leur arrive? Est-ce que chaque jour ils voient? Ou alors c'est l'autre chose, d'autres situations qu'Allah nous protège? D'accord? Donc, nous avons grandement besoin de nous préparer pour ce moment. Et on a, bismillah, choisi une approche qui est l'étude de, pas tous les versets, parce qu'il y en a beaucoup, de quelques versets qui mentionnent la mort. Et les mufassirin, rahimahumullah, il y a une parole qui est magnifique, ils disent que les versets qui parlent de la mort sont des versets qui sont vraiment complets. Et ces versets, takfik, ça t'est amplement suffisant. N'importe quel verset qui parle de la mort est toujours clôturé. Vous savez, les ayats, il y a une annonce, et puis les ayats se terminent par une conclusion. Des fois, le verset se termine par des noms d'Allah. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, des versets comme ça. Des fois, après l'annonce du thème principal, entre autres la mort, il y a le conseil divin. Il y a le rappel divin, le rappel à l'ordre. Ben, prenez n'importe quel verset où il y a le mot « al-maut », mort, qui est cité, ben, vous allez trouver en conclusion du verset un enseignement extrêmement riche. Et donc, Raccroche-toi à n'importe laquelle de ces versets et tu trouveras la voie à suivre. On en a vu 5 ou 6. Il me semble que les derniers versets qu'on avait vus, c'était « وَمَا كَانَ الشَّيْطَانُ رَجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا » On est dans la sourate Al Imran. « Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. » Ça veut dire qu'il n'est pas dans les mains d'une personne de retirer l'âme, le ruh de quelqu'un si Allah ne l'a pas déjà prédestiné. Ça veut bien dire que la mort, c'est dans les mains d'Allah. Tout comme la vie, c'est dans les mains d'Allah. C'est Allah qui décide quand est-ce que la vie aura lieu dans le ventre de la maman et quand est-ce que ça n'aura pas lieu, même si toutes les conditions sont réunies. Et c'est Allah qui décide quand il rappelle vers lui un de ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement tragique ces derniers temps où il y a eu beaucoup de morts? Je ne sais pas si c'est un tremblement de terre, cyclone ou inondation, je ne sais pas dans quel pays, je ne me rappelle plus où. Quand vous avez un événement, des cataclysmes comme ça, vous avez d'un coup une centaine de morts. Ben, on se dit les choses très clairement. Quand ça se passe dans un pays pauvre, à peine si, wallah musta'an, on y porte attention. Pourquoi? Parce que les médias ne s'y intéressent pas. En fait, les médias sont devenus les maîtres à penser. Ce que Kant appelait un directeur de conscience. Kant, le grand philosophe, le philosophe, on va dire. Ben, c'est exactement ça. Nous sommes arrivés malheureusement à un stade si bas, que nous réfléchissons et nous percevons le monde à travers le regard des médias. Quand ça fait la une de nos cœurs. Quand ça ne fait pas la une, ben, ça ne nous touche pas. Et c'est totalement erroné. Il n'y a pas besoin de refaire l'histoire, de revenir vers ce qu'on a déjà dit vendredi. L'imam qui s'est fait tirer dessus à Brest, une personne qui va voir l'imam, qui parle avec lui, qui demande des renseignements, et qui dit, imam, attends, je vais prendre mon appareil photo, on va faire une photo. Et l'imam dit, ok. Il va dans sa voiture, il prend son pistolet. Il vient à bout portant, il tire. Mais il ne s'est pas tiré. Et Allah a fait qu'il n'a pas pu l'atteindre comme il le souhaitait. Parce qu'il voulait le tuer, il ne voulait pas le blesser. Et il y a une autre personne qui a sauté dessus et tout et tout. Vous avez tous lu hein, l'article, d'accord? Et que les médias n'ont pas fait la une, rien du tout. Ce jour-là, c'était France-États-Unis, football féminin, qui avait plus d'importance que cet attentat. Vendredi, dans le programme de la Sanie, j'avais dit lundi, on n'entendra plus parler. Aujourd'hui, c'est mardi. Vous avez lu quelque chose dessus aujourd'hui? Khalas, terminé. Affaire classée. Alors que nous avons été profondément touchés, peinés, attristés, parce que c'est un mu'min, c'est un musulman, et qui représente la religion. C'est quoi son discours? Encore une fois, je dis, ça c'est son discours. On ne va pas rentrer dans qu'est-ce qu'il dit, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Non, mais c'est un mu'min, c'est un croyant qui se fait tirer dessus. Et nous savons pertinemment que la même chose qui serait arrivée dans d'autres communauté, voilà, ça aurait été autre chose. Qu'est-ce qu'on a à dire? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce que les prophètes alayhi salat wa salam ont tous dit dans des situations d'adversité, où ils étaient entourés par les ennemis ou menacés, ou dans des situations où ils étaient en danger. Hasbunallah, Allah nous suffit amplement. Et celui qui se contente, entre guillemets, qui se suffit d'Allah, ben, il a eu son Seigneur, il a eu son Créateur. N'attendons rien des créatures. Et là où on va en venir, c'est que, je ne sais pas pourquoi on avait commencé à parler des médias, on est parti un petit peu loin là. C'est la vision qui nous... Oui, je ne sais plus. Khair, Inch'Allah. Je reviens vers ce que je disais. Oui, on a dit que quand, je reviens dessus, quand il y a un cataclysme d'un pays fort et que les médias n'en parlent pas, donc pour nous ça n'a pas d'importance aussi. Voilà pourquoi on a dérapé vers autre chose. Et c'est une grosse erreur. Mais quand on a 100, 150 personnes qui meurent, hein, ben en fait, ce sont 150 personnes qu'Allah a rappelées vers lui de cette façon. Et c'était leur taqdir, leur destin. Et il n'y avait aucune solution pour eux de mourir d'une autre façon que de cette façon qu'Allah a prédestiné. Ainsi, personne ne doit avoir de remords pour quelqu'un qui est parti. Imaginez, je vais en France ce soir, je vais travailler, Et pendant que je suis dans l'avion, mon père meurt. Imaginez. Allah yahfadhou. Et que je lui dis que j'aurais pas dû prendre ce vol, j'aurais dû prendre le... Non, ne t'afflige pas, ne culpabilise pas. La mort, c'est pas de tes mains. C'est pas un agenda, c'est pas un rendez-vous qu'on prend. L'ange de la mort, c'est pas... Il n'y a pas de moyen de savoir quand est-ce qu'il vient. Ça, c'est taqdir min Allah. Donc, ikhwan et fillah, c'est une approche que nous devons essayer de travailler et réaliser que, donc, sachant que c'est dans les mains d'Allah, et que ce n'est prévu et connu que d'Allah, dans certains textes, il est même stipulé que l'ange de la mort ne connaît pas à l'avance. Il ne connaît pas toutes les personnes qu'il doit prendre jusqu'au qiyama. Non. C'est au fur et à mesure qu'Allah lui donne ses missions. Et il n'y a que notre Rabb, notre Seigneur, qui connaît. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا. C'est lui seul qui connaît tout ce qui concerne ce moment qui est le passage. En fait, c'est ça qu'il faut réaliser, que la mort, c'est en fait le passage de ce monde vers l'au-delà. C'est l'aboutissement de la vie de ce dunya. Donc, ça, c'est un enseignement. Maintenant, ça, c'était le verset qu'on appelle en arabe, un terme technique, on appelle ça ash-shahid. Ash-shahid, c'est la partie qui nous intéresse de le verset par rapport à notre thème. Illa bi'idnillahi kitaban mu'ajjala, que c'est Allah qui prédestine. Maintenant, nous, on va aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on ne s'est pas contenté du livre, on a cherché la traduction, comme on l'a fait depuis le départ, pour voir qu'est-ce qui vient après. Et ce qui vient après, c'est ça qui est intéressant. C'est là aussi qui est intéressant. Ça nous donne un enseignement. Donc là, ce qu'on a lu là, c'est qu'on réalise que tout est dans les mains d'Allah, et c'est Allah qui prédestine quand est-ce qu'on quitte ce monde. La suite, c'est « وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي كِي الشاكرين. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Ça, ce sont des enseignements clés. Ô mu'min, choisis, tu veux quoi, Akhtar, tu veux quoi? Tu veux le dunya ou le akhir? Celui qui cherche le dunya, qui quand il se lève le matin, son fikar, c'est dunya, c'est dua, c'est dunya, « Oh Allah, je veux réussir à tel investissement, je veux gagner ça, je veux gagner ça », possible qu'Allah te l'accorde. Mais sache que ton cœur ne prend pas la bonne orientation. Celui qui recherche le akhira, le contentement d'Allah, et son dua le plus sincère, le plus fort, qu'il demande régulièrement, c'est « Ya Rabb, accorde-moi la foi, augmente mon iman, thabitna ala l'iman, wa mitna » Al-Iman, il demande Allahumma rizqna husnal khatima et donne-nous istiqama de mes prières, la force pour rester éloigné du haram. Ben Allah te donne ça. Et s'il t'a donné ça, il t'a tout donné. S'il t'a donné ça, c'est khayra dunya wal akhira. Et le juste milieu, c'est le mu'min qui demande Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. On demande notre part de ce monde, mais on veut avant tout le akhira et la protection contre le feu de l'enfer. Et ça, d'une façon explicite, ça veut dire également que il faut pas que le dunya que j'obtiens soit une porte d'accès au feu de l'enfer. Que le dunya qu'Allah m'accorde, le rizq, la nourriture qu'Allah, la subsistance qu'Allah m'accorde, que ce soit une subsistance qui est halal, licite, et qui, ce n'est pas une subsistance ou un moyen ou un dunya qui me détourne du droit chemin et qui me mène vers l'enfer. Les hadiths, le prophète me dit, ce hadith est magnifique. Tous les hadiths sont magnifiques, mais pleins de sens. Et ça aussi, c'est des hadiths qui nous permettent de nous raccrocher aux vraies valeurs du dîn, que le prophète nous enseignait. Et non pas celles que la société essaie de nous faire accepter. On nous gave comme des oies. C'est pour ça qu'on a le... Ben, si on avait le foie, le iman gras, ça aurait été bien. Mais malheureusement, notre foie n'est pas gras. Malgré tout ce qu'on avale, parce que ce qu'on avale, c'est sale, c'est mauvais. Ce hadith, c'est lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, nous explique le taqdir, magnifique, qu'il y a des personnes pour qui Allah a prédestiné la pauvreté. Et que si cette personne, et Allah sait, que si cette personne avait eu autre chose que la pauvreté, c'est-à-dire avait eu les biens de ce monde, cette personne se serait détournée du droit chemin. Et pour d'autres personnes, Allah a prédestiné la richesse. Et que si cette personne était pauvre, la personne aurait pris un mauvais chemin. Ça veut dire que Allah connaît chaque personne, chaque individu, chaque caractère. Là, on dépasse le code génétique que les médecins ont découvert, ils en sont fiers. Non, Allah connaît la personnalité, le passé, le présent, le futur, et même le futur qui ne antérieur, le futur qui plus que ça, le futur qui ne se produira pas. Masha, Allah connaît ma kana wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Ce qui ne va pas se produire, si ça s'était produit, comment est-ce que ça serait arrivé? Imaginez qu'Abdurrahman a postulé pour un poste dans, je dis une bêtise, hein, dans telle entreprise. Il a fait son CV. Il s'est fait pistonner. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il ne peut pas avoir le travail. Du coup, il garde son ancien boulot. Peut-être que notre Seigneur, dans sa clémence, savait que là-bas, il y aurait peut-être un fitna pour Abdurrahman. Qui nous dit que il n'aurait pas eu une petite stagiaire ou secrétaire qui aurait fait tourner sa tête et qui aurait, voilà, parce que l'être humain reste faible, ou d'autres choses, ou des problèmes avec des collègues, ou peu importe. Il faut qu'on réalise que ce qui nous a échappé, entre guillemets échappé, hein, ne nous était pas destiné. Et quand Allah éloigne quelque chose de toi, c'est qu'il y a un bien pour toi dedans. De cette façon, le mu'min avance, le cœur tranquille, le cœur apaisé. Il n'a pas besoin de dire que je fais vite pour avoir telle chose, pour gagner ça, je remplis mon dossier en premier, pour avoir ça en premier. Tout est muqaddar, tout est déjà écrit dans le taqdir. Tu as juste à attendre le moment et tu l'auras. Maintenant, bien sûr, fais tes efforts. Fais tes efforts, d'où le hadith de « Si vous aviez confiance en Allah, haqqut tawakkul, réellement, comme le mu'min doit avoir confiance en lui », vous souriez comme c'est? Quelle métaphore ça, Akhtar? Quelle métaphore? Allah compare le mu'min à quel animal? Qui connaît le hadith? Abdurrahman y connaît. Si vous aviez confiance en Allah comme vous auriez dû l'avoir, vous seriez comme les oiseaux qui quittent le nid, le ventre vide, et qui reviennent le ventre plein. Est-ce que vous connaissez des oiseaux qui ont CAP, qui ont BTS, des oiseaux qui ont master, des oiseaux? Est-ce que les gros oiseaux, les gros pigeons par exemple, ce sont les pigeons riches? Il n'y a pas tout ça. Hein? C'est rizq min Allah. Et en commentaire, les muhadithin disent, ça veut dire que, un, place ta confiance en Allah, mais sache qu'aucun oiseau n'obtient sa subsistance non plus en restant dans son nid. Et toute la profondeur de la métaphore, de la parabole que le prophète utilise. Regarde l'oiseau, il vient, il va, il revient, où est-ce qu'il part? Allah seul le sait, mais il revient le ventre plein. Mais l'oiseau a fait son effort aussi. Il est parti. Donc toi, bouge. Fais tes efforts, fais tes démarches, postule, dépose ton CV, fais des demandes, fais-toi aider s'il le faut et tout. Mais en finalité, garde ta confiance en Allah. Et sache que si tu convoitais telle chose, c'est valable pour le travail, c'est valable pour le mariage, c'est valable pour n'importe quelle chose de la vie. Et si tu ne l'as pas, c'est que ton Seigneur ne l'a pas prédestiné pour toi et au contraire, il t'a donné quelque chose d'autre. Il y a autre chose qui t'attend. Voilà donc un enseignement de ce verset de la sourate. De quelle sourate encore ça? De la sourate Ali Imran. À nous de choisir qu'est-ce qu'on veut. Et on doit choisir le akhirah tout en ayant notre part de ce dunya. Hadith, verset suivant et puis on s'arrêtera là. Il nous reste 60 secondes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mawtu walau kuntum fi burujim mushayyadah. On est dans la sourate An-Nisa, verset 67. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Il n'y a que quel que soit l'endroit où on est, quand Allah a écrit que c'est le moment de revenir vers lui, vous revenez vers lui. Tu peux aller dans l'hôpital américain à Paris, où il y a les meilleurs médecins, où tu es entouré d'un neurologue, d'un chirurgien, d'un cardiologue. Tu peux payer tous ces médecins-là. Chacun, je vous donne 10 000 euros par mois, hein, mais vous restez là, H24, chacun il prend un lit d'or autour de moi. Veille à moi, bye. Veille à moi. Regarde mon tension, regarde mon diabète, regarde mon créatine, regarde tout, et veille sans arrêt, hein, qu'il ne m'arrive rien. Tu peux être entouré par les plus grands médecins, Allah décrète, mange la mort, il prend ton âme. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit, et personne ne pourra te protéger non plus contre la mort. Donnez-moi l'exemple d'une personne qui, lors d'un cataclysme, a essayé de se protéger contre la colère d'Allah en utilisant sa logique, akal. Et Allah a montré un exemple de sa puissance et du fait que quand Allah a prédestiné, La mort est un châtiment, personne ne peut y échapper. Qui est cette personne? Vous n'aimez pas les devinettes. Fils d'un prophète. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Quand Noé, Nuh alayhi salam, a annoncé le déluge, a prévenu les gens, il y avait deux catégories. Ceux qui n'ont pas cru en lui, c'était la majorité, qui se sont moqués de lui. Déjà, ils se moquaient de lui quand ils construisaient quoi? L'arche. قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا كَمَا تَسْخَرُونَ. Et puis, il y avait les quelques personnes qui avaient accepté le haqq, qui avaient iman en Allah, et qui ont accepté de suivre Nuh alayhi salam. Et puis il y avait son fils qui n'a pas cru en lui. Et cela faisait beaucoup de peine à Nuh alayhi salam. Et donc les Anbiya alayhi salatu wa salam étaient éprouvés également à travers leur famille. Quand quelqu'un de ta famille ne trouve pas la hidayah, ça doit être la plus grande douleur. Que ton fils rate son bac, Allah protège, hein, mais qu'il rate son bac ou qu'il soit au chômage ou autre chose, que ça t'affecte, oui. Mais il n'est pas normal que quand toi tu vas Fajr et que ton fils dort à la maison, il ne fait pas la salah, que ça ne t'affecte pas. Ça, ce n'est pas normal. Parce que tu as, et ça prouve que dans ton cœur, il y a dunya. Et il n'y a pas hubbullah, l'amour d'Allah. Parce que tu veux le dunya pour ton fils et tu ne recherches pas le akhirah. Et donc, Nuh alayhi salam a été éprouvé à travers son fils. Et quand son fils a entendu le message, qu'est-ce que qala sa, ah oui, il a Jabal. Jabal, ça veut dire quoi? Jabal? Une montagne. Ça, ah oui, il a Jabal. Il y a un simouni minal ma'a. Il dit que je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera contre l'eau. Aql, mukh, logique humaine. Ben, il y a une montée des eaux. De l'eau, combien il monte? 50 cm. 1 mètre. On n'a jamais vu plus de 2 mètres. Ça n'existe pas. Mais lui, il ne parle pas d'une colline, une montagne. Imaginez qu'on dit qu'il y a la protège, hein, qu'il y a une inondation prévue, montée des eaux, bref. Même pas de tsunami, hein, mais une inondation. Artal dit qu'écoute, Mohamed Savasilos, tranquille, il est à 1100 mètres d'altitude. 1100 mètres, puis je dis, ben, qui ça, il touche à moi là-haut, là. Il n'existe pas un kilomètre de l'eau, il monte. Même d'un tsunami, ça ne se fait pas. Ben, c'était la logique du fils de Noé, Nuh alayhi salam. Et Allah a montré que, ben, et pourquoi Allah a énoncé son plan? Son plan, c'était aller sur une montagne pour que ce soit une leçon pour nous. Quand Allah dit qu'il y a quelque chose qui va se produire et que personne ne s'échappera, si ce n'est ceux qui seront sur ce bateau, ben, voilà la décision d'Allah. Et les éléments de ce monde ne te protègent pas. Les lois physiques en lesquelles tu as confiance, ben, oublie-les. Parce que c'est Allah qui décrète. Hada. Donc, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, quelles que soient donc les précautions qu'on prend, quand Allah a décrété que c'est le moment de mourir, telle est la décision d'Allah Azza wa Jalla. On s'arrête à la pause ce soir, Inch'Allah. On a repris un peu l'introduction et on a pu faire deux versets ce soir. Que ça nous soit, Inch'Allah, profitable et qu'Allah nous permette de retenir les leçons, d'y réfléchir et que cela touche nos cœurs et qu'on arrive à transformer cet enseignement, moi en premier, en amal, en augmentation de iman et de bonnes actions. Qu'Allah accorde la santé à toutes les personnes qui sont souffrantes, qui sont malades, et qu'Allah accorde longue vie à nos parents qui sont encore de ce monde, nos grands-parents, mais longue vie, fit ta'a, toujours demander longue vie de l'obéissance, et longue vie, jamais muhtaj, jamais non plus malade, ou que la personne ait besoin de son prochain, et que lorsque le moment arrivera pour nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes de quitter ce monde, ben, que cela se fasse dans la meilleure des conditions, dans une bonne action. On doit toujours souhaiter mourir dans une bonne action. Parce que les actions les plus parlantes, qui ont le plus de valeur, c'est bil khawatim, c'est celles qui sont faites juste avant de mourir. Dans certains textes, il est dit que quand on est ressuscité par rapport à la dernière action qu'on faisait de ce monde. Mourir alors qu'on est dans la prosternation. Allahu Akbar, Allahumma ja'alna minhum. Mourir alors qu'on est en train de lire le Coran. Comme qui ça? Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Mourir dans la salat comme qui? Qui a été assassiné dans la salat? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, mourir quand on fait le tawaf, mourir à Arafat, à Muzdalifa, dans le mois de Ramadan, tout ça, ça doit être des doigts que nous devons demander. Il ne faut pas se priver de ces doigts. Il ne faut pas penser juste à Morosi, à mes biens. Demande à Allah, je veux mourir dans ton adoration, dans le sejida, dans le ta'a, dans le droit chemin, dans une période où on est proche de toi, où tu es satisfait de nous. Ça, ça doit être notre souhait le plus profond et le plus cher. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.